Heure, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie avec Camille Gros-Didier. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. En Égypte, sans surprise, l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi a été élu président avec près de 97% des suffrages exprimés. Selon la Commission électorale nationale, les partisans du maréchal qui dirige de facto l'Égypte depuis qu'il a destitué l'islamiste Mohamed Morsi il y a 11 mois n'avaient pas attendu ses résultats officiels pour sortir dans la rue et fêter sa victoire. Un décompte non officiel l'avait jusqu'alors donné vainqueur avec 93,3% des voix. Le taux de participation s'élève à 47,45%. En Centrafrique, Médecins sans frontières a retiré une partie de son personnel de la ville de Ndélé suite à une nouvelle attaque contre ses équipes médicales et ses structures. Et des affrontements ont été signalés hier à Bakala, près de Bambari. Le point avec Nicolas Pinault.
Quatre hommes sont entrés dans la nuit de dimanche à lundi dans la maison de MSF à Ndélé pour perpétrer un vol à main armée. Javier Egoren, chef de mission MSF, se dit consterné par la violence contre ses équipes, dont une partie a été temporairement évacuée de cette ville.
Il y a un peu de violence, ils sont frappés un ou deux de notre staff là-bas. C'était vraiment très agressif, très énervé, c'était tendu. On n'a pas suspendu les activités, il y a l'équipe nationale qui reste sur place et ils font encore tourner l'hôpital.
Cette attaque intervient un mois après le massacre de Boguila, où 18 civils, dont 3 employés de MSF, ont été tués. Par ailleurs, des affrontements ont été signalés hier entre Antibalaka et Ex-Seleka à Bakala, 70 km de Bambari. Ahmad Nejaj, porte-parole des Ex-Seleka, a affirmé que Bakala avait été attaqué par des Antibalaka qui ont été repoussés. Pendant ce temps, à Bangui hier, à l'ouverture de la session, le CNT a recommandé aux autorités de transition l'organisation d'un dialogue inter-centrafricain et la mise en place d'un plan d'aide pour favoriser le retour des déplacés.
En Centrafrique, en Libye, la police a installé de force le nouveau premier ministre à Tripoli, Ahmed Matic, a ainsi tenu son premier conseil des ministres à la primature, que le gouvernement sortant refusait de quitter. 16 Serge Lazarevich, otage français, enlevé en novembre 2011 au Mali, est apparu dans une vidéo diffusée aujourd'hui par une chaîne basée à Dubaï. Dans cette vidéo, il appelle le président François Hollande à agir pour sa libération. Serge Lazarevich a été enlevé dans un petit hôtel dans le nord du Mali en compagnie de Philippe Verdeau, qui lui a été retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ukraine, les combats se sont poursuivis ce mardi entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. De violents affrontements se déroulent dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Apprend-on de sources officielles, une explosion dans le bâtiment de l'administration régionale à Louhansk a fait au moins 7 morts. Ce complexe abrite les dirigeants du mouvement séparatiste. Hier, 5 rebelles sont morts et 10 soldats blessés, dont 4 grièvement suite à l'attaque par les séparatistes d'un poste frontalier près de la Russie. Et puis les États-Unis entendent pour le moment travailler avec le nouveau gouvernement d'union nationale formé par le Fatah, du président palestinien Mahmoud Abbas et le Hamas. Pour sa part, le premier ministre Benjamin Netanyahu, selon un commentateur politique israélien, se sent trahi et trompé. Les précisions, Michel Joseph.
Washington se promet de juger la nouvelle équipe palestinienne par ses actes et d'agir en conséquence. Lundi, la porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki, avait fait remarquer que ce gouvernement de technocrates n'incluait aucun ministre affilié à Hamas. Ce à quoi, selon l'AFP, a rétorqué un proche de M. Netanyahu, le ministre chargé du renseignement, Yuval Steinitz. Il n'est pas possible de présenter en privé ce gouvernement comme celui du Hamas et le qualifier ensuite publiquement de gouvernement de technocrates. C'est un gouvernement du Hamas, un gouvernement terroriste.
La Voix de l'Amérique, place au Journal de l'économie.
Camille Gros-Didier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, rapport mondial sur la protection sociale, les Africains restent mal lotis.
Il est très important et alarmant de noter que les développements au niveau des systèmes de protection sociale ont traîné de la patte, si on peut dire, en Afrique.
Anne Drouin, responsable à l'Organisation internationale du travail, nous en dira davantage. Les métaux rares et l'or de la République démocratique du Congo transitent par Dubaï, un trafic qui fait perdre gros au gouvernement Kabila.
Un tiers des exportations illégales de diamants passe par Dubaï et la plupart des exportations des Grands Lacs, surtout l'Ouganda, la RDC, le Kenya, le Burundi, une portion de la Tanzanie aussi passe par Dubaï.
On entendra Joanne Lebert, directrice de programme pour les Grands Lacs au partenariat Afrique-Canada. Et ici aux États-Unis, un puissant réseau de cybercriminels a été démantelé alors qu'il avait déjà détourné plus de 100 millions de dollars. Dans la dernière édition de son rapport mondial sur la protection sociale 2014-2015, bâtir la reprise économique, le développement inclusif et la justice sociale, l'Organisation internationale du travail se penche sur la question de savoir si les populations des différentes régions du monde, y compris l'Afrique, disposent ou pas d'une protection sociale adéquate au moment où elle est le plus nécessaire. Le nouveau rapport étudie les systèmes de protection sociale, la couverture, les prestations et les dépenses de sécurité sociale dans plus de 190 pays. Le point avec Anne Drouin, responsable à l'OIT.
Il est très important et alarmant de noter que les développements au niveau des systèmes de protection sociale ont traîné de la patte, si on peut dire, en Afrique. Et surtout pour rendre le droit effectif à la protection sociale, malgré les avancées qui ont été remarquées au cours des 10 dernières années, notamment suite à la crise qui s'est sévie depuis 2007-2008 pour les prix à la consommation. On remarque des nuances toutefois entre les différentes régions d'Afrique et les différents types de pays. Par exemple, en Afrique du Nord, les pays bénéficient de taux de couverture de protection sociale qui sont quand même assez intéressants. Par exemple, en Égypte et au Maroc, avec des taux au-delà de 50%, allant même jusqu'à près de 95% en Libye. Toutefois, pour les pays d'Afrique subsaharienne, à l'exception de quelques-uns qui sont des cas exceptionnels, la couverture dans le domaine de la santé aussi est en deçà de 20% de la population. C'est un problème assez important. Mais par contre, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Namibie, le Ghana, qui ont su aborder des solutions innovantes pour étendre la couverture de la santé dans ces régions. Pour les autres couvertures de protection sociale, si on regarde pour les personnes âgées, on voit qu'en Afrique, pas plus de 3,8% de la population de 65 ans et plus a droit à une sécurité élémentaire de revenus, ce qui représente au plus 1,3% du PIB en moyenne.
Quels sont les domaines où les Africains manquent le plus de protection sociale?
C'est certain que la santé est un domaine où les manquements sont les plus importants. Mais par contre, en Afrique, les plus grands soucis sont au niveau systémique, d'avoir une approche vraiment pour regarder quelles sont les garanties minimales dans le cadre des socles nationaux de protection sociale, pour déterminer au niveau de chaque pays quelles sont les priorités. Et le BIT est très soucieux d'avoir une approche systémique en Afrique. Et à ce niveau-là, la santé est forcément le domaine prioritaire et le domaine pour lequel on rencontre beaucoup de demandes des pays. Mais dans un effort concerté, c'est pas seulement la protection sociale pour la santé, mais c'est aussi de regarder le développement concomitant des infrastructures de santé, pour que les services publics essentiels soient à la hauteur, non seulement pour les infrastructures sanitaires elles-mêmes, mais aussi, par exemple, l'accès à l'eau potable, des moyens de sanitation suffisants, etc. Il y a aussi des besoins en matière de sécurité du revenu élémentaire pour les classes les plus pauvres, évidemment. Mais ce qu'on remarque, c'est aussi le manque de moyens de protection sociale, même pour les classes moyennes. Et là, on ne parle pas seulement de régime non contributif, mais on parle aussi de régime contributif, parce qu'il y a une grande part de la population dans les différents pays d'Afrique a des moyens de cotiser à la protection sociale, mais les moyens ne sont pas suffisamment élaborés pour leur permettre de se prévaloir du privilège d'une couverture d'assurance sociale.
Vous mentionniez que des pays tels que le Rwanda, la Namibie ou l'Afrique du Sud offrent une couverture sociale. Comment est-ce que les autres pays africains pourraient mieux organiser et financer leur protection sociale?
Il y Il y a plusieurs options qui s'offrent, notamment dans la perspective d'élargir l'espace fiscal. Évidemment, une meilleure utilisation et rationalisation des ressources existantes, non seulement les ressources nationales, mais aussi l'aide au développement. Plusieurs de ces pays, les least developed countries, reçoivent des parts importantes de leurs budgets sociaux de l'aide extérieure et on remarque parfois des efforts contre-productifs qui pourraient être mieux alignés pour renforcer aussi les capacités de l'État à mieux faire face aux demandes du futur et non pas seulement se focaliser sur des projets filets sociaux à court terme et puis davantage focaliser sur rendre les régimes fondés sur le droit. Aussi, on remarque les capacités des États à prélever des revenus de taxation sont c'est un avenue très important et très très intéressant. On remarque que plusieurs ont introduit des taxes sur la valeur ajoutée, des TVA, qui sont, elles, par contre, négatives pour surtout les classes les plus vulnérables. Alors, mais il y a d'autres moyens de renforcer la taxation des États qui, dans plusieurs pays, est en deçà de 15 % du PIB, ce qui est très bas en relation avec les pays d'Europe, par exemple, où on retrouve des taux de fiscalisation de près de 40 à 50 % du PIB. Aussi, il y aurait moyen d'étendre les assurances sociales parce qu'il y a beaucoup de couches de la population qui ont les moyens de pourvoir à leur propre protection sociale, mais qui n'ont pas d'offre de régime public à leur attention. Donc, les assurances sociales sont importantes.
Anne Drouin, responsable à l'Organisation internationale du travail, elle était jointe à Genève. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie. La privatisation annoncée de la Société des télécommunications du Tchad, la SOTEL Tchad, et le licenciement collectif du personnel de ladite société pour motif économique coupe le sommeil aux employés. Ils réclament avant tout des droits sociaux équivalents à 60 mois de travail effectif. Pourtant, le gouvernement estime que la situation des employés doit être examinée au cas par cas. Je vous propose un reportage de notre correspondant François Djekombe à N'Djamena.
La société des télécommunications du Tchad est en difficulté. Sans s'opposer à sa privatisation qui demeure la seule issue honorable, les quelques 500 employés exigent que soient payés intégralement leurs droits sociaux. Éloi Ndimadjingar, un des représentants du syndicat national des agents du secteur des TIC, Synastic.
Nos intérêts sont en train d'être menacés. Par deux fois, nous sommes allés le rencontrer. La dernière rencontre date du 26 nous a fait savoir que pour avoir rendu service à la SOTEL, ils nous payent nos droits. Mais le fait qu'on puisse garder cette maison pendant des années et qu'on doit repartir comme si c'était des vulgaires monsieur, c'est là où ça nous touche. Et nous avons des âmes à nourrir derrière nous. 556 employés à la SOTEL. Nous avons demandé les garanties d'emploi. Et tu m'as dit dans un président qu'il garantit l'emploi. À notre dernière rencontre, il dit que ce n'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Nous ne demandons rien à l'État tchadien. C'est sur le prix de vente de la SOTEL là, que nous voulons qu'ils débloquent quelque chose pour nous donner.
La privatisation de la SOTEL Tchad a également préoccupé la représentation nationale qui a interpellé le ministre des Postes et des Technologies de l'Information, Daoussa Déby Itno. Pour lui, la SOTEL Tchad est une entreprise fortement endettée. En 2009, l'État, pour la tenir debout, y a injecté une somme de 53 milliards de francs CFA et aujourd'hui, elle fait des pertes mensuelles de 400 millions de francs CFA. La privatisation reste donc la seule alternative pour permettre aux employés licenciés d'entrer dans leurs droits. Daoussa Déby Itno.
Profitons de l'occasion pour la privatisation et sur le retombé de la privatisation, en priorité, prendre en charge le sort du personnel. Il faut répartir le personnel en trois. Les fonctionnaires qui sont appelés à regagner leur maison de départ. Tous les droits pour les services rendus seront payés. Le deuxième cas, le repreneur, en cas où c'est privatisé, il va travailler avec les gens. De ce côté, donc, une bonne partie de ces personnels va être résorbée par le repreneur. Il y a un effectif résiduel qui va rester, qui n'est pas parti à la fonction publique parce qu'il n'est pas fonctionnaire, qui n'est pas été repris par le privé parce qu'il y a des raisons propres. Là maintenant, il faut mettre un plan social, ça veut dire ne pas les gens les laisser dans la rue. Il faut les accompagner, il faut vouloir trouver du travail, une reconversion d'activité, il faut négocier avec eux pour leur trouver quelque chose qui leur permette de reprendre une nouvelle vie.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
Oui, Washington, vous suivez La Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Conformément à la loi Dodd-Frank, du nom de ses principaux artisans, le sénateur Chris Dodd et le représentant Barney Frank, la société Apple, comme toute une série de géants de l'électronique, a publié son premier rapport sur les minéraux de la guerre, ce qu'elle était tenue de faire à la date limite du 2 juin. La loi demande en effet aux entreprises inscrites à la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, de s'assurer qu'elle n'alimente pas les conflits en achetant les métaux rares nécessaires à la fabrication de leurs produits. Le but reste d'assurer la transparence du commerce des minéraux provenant de zones sans conflit. Tout en se félicitant des efforts de transparence de certaines sociétés, l'ONG Global Witness a déploré que nombre d'entreprises semblent minimiser leurs déclarations. On écoute Sophia Pickles de Global Witness.
La plupart des rapports présentés ne donnent pas suffisamment de détails pour montrer que les entreprises ont vraiment vérifié le chaîne d'approvisionnement et qu'il n'y a pas assez de détails pour montrer que l'entreprise a fait des contrôles fiables.
Jusqu'à présent, une seule société, Intel, le géant de l'informatique, a obtenu un audit de son rapport sur les minerais de conflit.
Oui, c'est correct. Il n'y a qu'une seule entreprise jusqu'aujourd'hui qui a obtenu une audit. Il y a tant des autres entreprises qui n'ont pas fourni assez d'informations. Par exemple, ils n'ont pas publié des informations concernant le pays d'origine de leur minerai. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la majorité des entreprises n'ont pas même indiqué comment elles évaluent les démarches de leurs fournisseurs, par exemple. Donc, s'il y a une absence de ces informations, c'est très difficile de savoir les étapes qui ont été prises réellement par ces entreprises.
Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être un certain nombre de sociétés ne prennent pas au sérieux la loi Dodd-Frank?
Bon, je pense qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas voulu réagir à temps. Mais nous sommes arrivés au délai et nous allons être capables de voir quelles sont les entreprises qui ont réagi dans une manière progressive, qui ont vraiment essayé d'identifier qu'est-ce qui se passe au long de la chaîne et quelles sont les entreprises qui n'ont pas fourni des efforts suffisants jusqu'à aujourd'hui. Bon, si ces rapports sont faits correctement, ils peuvent fournir aux consommateurs, aux actionnaires des renseignements primordiaux sur les démarches mises en œuvre par les entreprises pour essayer de vraiment acheter des minerais de manière responsable. C'est quelque chose de très, très important.
Sophia Pickles, chercheuse sur l'Afrique à l'ONG Global Witness, elle était jointe à Londres. Vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. Toujours concernant le commerce des matières premières, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, rassemblait récemment à Paris son 7e forum annuel sur les chaînes d'approvisionnement responsables des minéraux. Parmi les participants, l'ONG Partenariat Afrique-Canada, qui en a profité pour pondre un rapport sur le trafic des diamants et de l'or en provenance de la République démocratique du Congo, qui transite par Dubaï avant d'être renvoyé vers l'Inde ou encore l'Asie du Sud. Je laisse la parole à Joanne Lebert, directrice de programme pour les Grands Lacs au partenariat Afrique-Canada.
Les initiatives reliées à la mise en œuvre de diligence raisonnable de l'OCDE ainsi que la mise en œuvre du mécanisme de certification de la CIRGL, c'est-à-dire la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, vise à introduire des contrôles pour éviter l'exploitation illégale de ce qu'on appelle les 3T et l'or, c'est-à-dire l'étain, le tantalum et la wolframite, ainsi que l'or de la région des Grands Lacs. Il y a eu plusieurs tentatives et un progrès est noté. Nous avons aussi un projet pilote qui vise à tracer l'or artisanal de la RDC, à créer des chaînes de minerais traçables pour l'or, officialiser les producteurs d'artisanat, tout dans le but d'éliminer les conflits de la région des Grands Lacs. Mais nous avons noté que la plupart de l'or en particulier, et les diamants aussi, passent par Dubaï. En effet, un tiers des exportations illégales de diamants passent par Dubaï. Et la plupart des exportations des Grands Lacs, surtout l'Ouganda, la RDC, le Kenya, le Burundi, une portion de la Tanzanie aussi, passent par Dubaï. Et la raison est qu'il y a un système en place à Dubaï qui voit les importations, exportations qui sont très, très, très bas. Et aussi, il n'y a aucune taxe au niveau des sociétés.
Vous voulez dire que les importations sont sous-évaluées?
C'est ça, tout à fait. Ça fait qu'ils sont sous-évalués pour les diamants et ensuite ils sont exportés de Dubaï avec la valeur actuelle. Donc, nous estimons à peu près 44 % d'une sous-évaluation pour les diamants qui sont exportés, surtout de la RDC, et qui passent par Dubaï.
Mais alors, quel est l'impact de cette sous-évaluation pour les pays africains exportateurs?
Ça crée une vulnérabilité. Il y a de l'argent, il y a des redevances qui ne reviennent pas aux pays exportateurs, mais aussi ça crée une vulnérabilité par rapport à la criminalité. Il y a des réseaux criminels qui profitent de ces profits pour alimenter les conflits ou il y a un manque de transparence complet par rapport à ce qui se passe avec cette différence, ce 44%, c'est vis-à-vis exportation-importation. C'est surtout dans le domaine des diamants, mais pour l'or, nous voyons il y a une certaine facilité pour arriver à Dubaï, importer de l'or dans des valises. La documentation n'existe presque pas. Ils ne vérifient pas très bien la documentation, ni les acheteurs. Ça fait qu'il y a très peu de diligence raisonnable. Mais dans les pays d'origine aussi, les procédures d'exportation sont très faibles aussi. Donc, c'est au niveau du contrôle de l'exportation et de l'importation où ce qu'on voit la possibilité de criminalité, mais aussi que ça désavantage les pays d'exportation.
Vous suggérez au gouvernement des Émirats arabes unis de renforcer ces contrôles?
Oui, tout à fait. Donc, il y a besoin des contrôles au niveau des exportations dans les pays d'origine. Il y a besoin d'avoir une harmonisation au niveau des régimes fiscaux et aussi la mise en œuvre en totalité du système de certification de la CIRGL, y compris ce qu'on appelle l'auditeur indépendant de la chaîne des minerais, qui est responsable des investigations par rapport à ce genre d'activités pour s'assurer que les systèmes sont plus rigides, sont plus conformes, sont plus transparents, mais aussi au niveau des exportateurs et des importateurs, la mise en œuvre du guide de l'OCDE, de devoir de diligence, afin de s'assurer une transparence, un rapportage sur les activités des agents, surtout le secteur privé et des gouvernements qui sont impliqués dans cette chaîne de minerais.
Joanne Lebert, directrice de programme pour les Grands Lacs au partenariat Afrique-Canada, elle était jointe à Ottawa. Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. Camille Grosdidier avec vous. Les économies africaines ont besoin d'investir 93 milliards de dollars par an pour mettre leurs infrastructures à niveau afin d'accompagner et de soutenir leur forte croissance. C'est ce qu'a affirmé Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, à l'occasion de la conférence de Maputo, organisée par le FMI, pour lancer la réflexion sur la croissance économique africaine. Alors, quelles en seront les retombées pour les Africains dans leur ensemble? Jacques Aristide a posé cette question à M. Amadou Diop, inspecteur des services économiques à l'École nationale d'administration du Mali.
Christine Lagarde affirmait que les économies africaines ont nécessairement besoin de financement pour soutenir le développement. Ce développement passe forcément inéluctablement par le financement des infrastructures. Les infrastructures peuvent constituer quoi et quoi? Il s'agit d'une part de l'industrie, d'autre part des infrastructures de transport viables pour permettre l'accessibilité des différents produits, des zones de production vers les zones de commercialisation.
Quand on parle d'infrastructures, beaucoup de gens pensent aux axes de transport, aux grands bâtiments, mais il est également question d'électricité et d'autres choses vraiment pour les gens, pour n'importe qui, pour tous les citoyens.
Effectivement, quand on parle d'infrastructures en termes de développement, il faut effectivement aller au-delà des infrastructures, comme vous l'avez mentionné, les bâtiments, les transports. Les infrastructures, il s'agit d'investir dans l'industrie, les infrastructures de transformation ou les infrastructures qui sont susceptibles vraiment d'aider les industries, telles que les énergies, etc., etc.
Il y a des ONG comme Oxfam International qui affirment que l'Afrique n'est pas en essor pour les citoyens ordinaires. On parle beaucoup de cette croissance africaine. Les gens vraiment ne tirent pas profit d'une telle croissance.
Effectivement, l'Afrique se trouve dans une dynamique aujourd'hui de croissance économique soutenue. Mais faut-il le rappeler, cette croissance n'est pas très bien partagée entre les différentes populations qui la génèrent. Donc, de mon point de vue, ce problème provient de la gouvernance. Il faut une bonne gouvernance pour pouvoir bien répartir cette forte croissance au niveau de nos populations.
Les économies africaines peuvent se permettre d'investir 93 milliards de dollars par an, d'après vous?
Tout dépend de la volonté politique. Si la volonté y est, je pense que c'est possible. Et puis, il s'agit vraiment de faire le diagnostic et puis les projets structurants, les projets dans lesquels vraiment on peut risquer d'investir pour un retour, un profit. Pour ma part, moi, je miserais beaucoup sur le secteur agricole.
Christine Lagarde a également déclaré que seules 16% des routes d'Afrique sont goudronnées contre 85% oui. En Asie du Sud. Est-ce que ce sont des lacunes qui représentent des coûts énormes pour les entreprises et pour les gens, d'après vous?
Ça peut constituer des obstacles pour l'épanouissement vraiment des activités économiques, puisque pour la plupart des zones de production, c'est des zones qui sont dans des zones rurales. Donc, il faut forcément acheminer les produits des zones rurales aux zones de transformation. Aussi, des zones de transformation aux zones de commercialisation. Donc, d'où la nécessité vraiment d'avoir des routes qui permettent vraiment l'acheminement de ces produits. Des matières premières des zones rurales aux zones de production, maintenant des zones de production aux zones de commercialisation. Les infrastructures ont une grande importance vraiment dans l'activité économique. Tout pays qui disposant d'infrastructures de transport viables vraiment peut espérer à avoir une activité économique épanouie.
Monsieur Amadou Diop, inspecteur des services économiques à l'École nationale d'administration du Mali. Il était joint par Jacques Aristide à Bamako. Ici Washington, et pour finir cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie, eh bien, aux États-Unis, un puissant réseau de cybercriminels a été démantelé alors qu'il avait déjà détourné plus de 100 millions de dollars. Michel Joseph.
Evgeny Mikhailovich Bogachev, un Russe de 30 ans, a été inculpé par un tribunal de Pennsylvanie, ici aux États-Unis, de piratage informatique, fraude financière et bancaire et blanchiment d'argent. Il serait le cerveau d'un puissant réseau de pirates informatiques, a souligné le ministère de la Justice. James Cole, ministre adjoint de la Justice, a indiqué que le virus Game Over Zeus, également connu sous le nom de GoZeus, a permis de dérober des millions de dollars à de petites et moyennes entreprises ainsi qu'à des particuliers dans une dizaine de pays à travers le monde.
Game Over Zeus.
Game Over Zeus est le botnet, le réseau de programmes connectés à Internet le plus sophistiqué que nous ayons jamais affronté, a expliqué M. Cole. Ce logiciel malveillant vole les mots de passe des comptes en banque de ses victimes avant de les vider. Game Over Zeus peut également installer un autre virus surnommé CryptoLocker. Ce dernier prend le contrôle de l'ordinateur, le transformant en zombie. Il empêche l'accès au contenu jusqu'au versement éventuel d'une rançon à payer, pour la plupart du temps en bitcoins, la monnaie virtuelle. Il aurait rapporté des dizaines de millions de dollars au réseau criminel et infecté des centaines de milliers d'ordinateurs. Leslie Caldwell, haute responsable du ministère de la Justice, pense que le démantèlement du réseau offrira un certain répit.
We fully expect that these schemes will re-emerge.
Nous nous attendons à ce que d'autres arnaques refassent surface et évoluent au fur et à mesure que les criminels ciblent de nouvelles victimes, a dit Mme Caldwell. L'enquête sur Game Over Zeus a été menée dans de nombreux pays, dont l'Australie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Ukraine.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.